pallier au manque de moyens de production ou de diffusion. Donc, on a parlé des bureaux de production rapidement, les bureaux d'accompagnement artistique, on verra ça cet après-midi. C'est un exemple aussi, les bureaux de production sont des opérateurs culturels qui mutualisent leurs moyens financiers, leur expertise artistique, leur capacité d'accueil et leurs compétences afin de mettre en place une prise en charge collective des créations artistiques et de leur présentation publique. Alors, il peut y avoir une signature de charte qui implique les partenaires, et la mutualisation, en général, ça concerne les risques de production et les risques de l'exploitation. Les bureaux de prod vont parfois même jusqu'à la production déléguée par rapport au spectacle. La Belle Orange a un statut un peu particulier. Il ne se revendique pas bureau de production vers cet après-midi, mais bureau d'accompagnement artistique. Et on demandera des explications pourquoi. Le bureau de production, par exemple, c'est des structures qui vont par exemple signer des contrats avec une ou plusieurs structures de diffusion ou lieux de diffusion, et sur X années, sur X spectacles, et permettre ensuite de faire un apport qui permette de. Soit d'acheter des spectacles, parce que le lieu de diffusion va acheter X spectacles, soit mettre à disposition des moyens techniques ou logistiques. Après, ce qui est intéressant au niveau de l'organisation par rapport au bureau de production, c'est soit on est partage ventilé sur les différentes personnes qui font partie du bureau de production, soit par une personne référente sur un ou plusieurs projets. Mais là, ça renvoie à la question et à la notion, l'obligation d'être hyper compétent. Voilà. Après, il y a un autre point qui est les GIE.
Sur le bureau de production, parce que en fait, pour moi, c'est pas de la mutualisation déjà. En fait, il n'y a pas 100. Non, et, je sais pas, peut-être que
Vas-y, vas-y, mais vas-y, c'est bon.
Mais en tout cas,
Vas-y, vas-y. Mais tu as bien raison.
En tout cas, pour moi, un bureau de production, comme on l'a entendu pendant très longtemps, c'est des gens qui prennent des spectacles et qui les vendent et qui rendent un service. Et pour moi, c'est pas mutualiser des moyens. C'est juste, en fait, ils ont des catalogues. Bah, je vais être un peu péjoratif, mais pour moi, c'est comme ça que je les représente. Du coup, pour moi, c'est pas mutualisé, ça.
Oui, mais ça, parce que ce que tu pointes là, c'est la forme du bureau de production où, en gros, c'est des catalogues d'artistes qu'on va vendre. Mais là, dans la notion de mutualisation, c'est le fait d'avoir un bureau de prod, qui est une structure qui va s'associer avec un lieu de diff, voire plusieurs lieux de diff, pour justement faciliter cette vente de spectacle, qui est une mutualisation de moyens au sein d'un projet commun. Donc mais j'entends tout à fait ce que tu dis, parce que c'est effectivement un des travers après des bureaux de prod, ça a été, en gros, on est des tourneurs, quoi, des tourneurs de spectacle.
C'est en train de changer parce que je pense que la notion de bureau de production elle est en train de s'effacer. C'est plutôt des coopératives d'accompagnement de projet qui sont en train d'évoluer.
Mais de toute façon, on aura des explications concrètes par rapport à Mathieu qui, au niveau de la Belle Orange, qui fait vraiment un truc. C'est bien sur le territoire d'avoir quelque chose comme ça pour de la danse et même pourquoi pas pour d'autres activités culturelles. Les GIE. Donc, c'est une forme de mutualisation, ce sont des groupements d'intérêts économiques qui permettent à des entreprises indépendantes de mettre en commun des moyens afin de favoriser leur développement. Alors, un des plus connus dans le secteur musical, c'est le GIE, les radios indépendantes, qui associe un certain nombre de radios. Mais il y a un GIE en région centre au niveau de l'audiovisuel, il y a une structure, c'est les films du trio, les films du trio, je crois. Il y a un GIE en région. Donc, l'idée, c'est d'accroître les moyens et les ressources et réduire les charges. Après, c'est pas une forme très très fréquente parce que la forme juridique du GIE implique une responsabilité illimitée et solidaire des membres, donc illimitée et solidaire sur les pertes et sur les dettes engagées par le groupement. Donc, avec une inscription au registre des commerces et des sociétés, du coup, par rapport à une sorte de flexibilité ou c'est beaucoup plus contraignant en fait. Maintenant, si on va sur l'échelon des territoires par rapport aux outils disponibles ou possibles. On a des clusters ou des grappes d'entreprises. Parfois, on parle de pôles, comme le pôle la coursive Boutarique sur Dijon, qui est un pôle. Donc, c'est plutôt un réseau territorial de PME ou TPE qui sont issus d'une même filière d'activité, qui sont liés par des relations clients-fournisseurs et qui se regroupent pour mutualiser des ressources et mener des projets conjoints. Donc, on a une forme de mutualisation, mais qui est vraiment intersectorielle. Le cluster, c'est la concentration spatiale d'entreprises dont l'activité comporte une part élevée de recherche et de développement et qui développe des pratiques innovantes. C'est pour ça que souvent, dans les tech, les French tech, tout ça, on a beaucoup de clusters d'entreprises, etc. là-dessus. Maintenant, il y a un cluster d'entreprises en Auvergne qui s'appelle le Damier, qui regroupe des structures du secteur culturel et qui fait ce genre d'activité justement de concentration spatiale d'entreprises et développement de projets en interne. Ce qui est intéressant, c'est
projet cyclique sur le vent de loin. Sur...
Alors justement, Anaïk, peut-être que tu veux parler, tu peux en parler, ou si tu veux en parler ou pas.
Oui, on est sur la préfiguration de ce que pourrait être un cluster autour de la production cinématographique sur le territoire régional. Après, on est vraiment sur la phase de réflexion, mais ça rejoint en effet des problématiques qui sont ici et là dans le secteur.
Et ça correspond à un besoin en région, au niveau de l'audiovisuel, d'avoir justement des entreprises qui se connectent par rapport à un...
Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, en gros, les acteurs qui font l'audiovisuel sur la partie production, sont atomisés sur le territoire. Maintenant, c'est comment ils arrivent à travailler ensemble. Et puis, on voit par ailleurs qu'ils se connaissent très peu entre eux. Il y a aussi la question de la mutualisation de matériel. Qui vient être posé et plus on de ressources, c'est-à-dire que même les techniciens du territoire connaissent peu des producteurs qui sont installés sur le territoire. Donc aujourd'hui, oui, il y a un véritable travail d'animation de cette filière et le besoin en effet de se retrouver dans des lieux comme pour le producteur du plateau, enfin, c'est un peu la même chose, d'avoir des pôles ressources pour se retrouver sur ces questions. Donc on est vraiment dans cette...
Donc c'est une phase de réflexion actuellement. On parle aussi de grappes d'entreprises. Et là, en général, les grappes d'entreprises, c'est plutôt des microstructures. Donc ça se confond un peu avec le cluster. Et c'est des regroupements de petites structures, voire de micro-organisations. Et le pôle, c'est sur un périmètre géographique encore moins large. Donc c'est pour ça que je parlais, par exemple, du pôle de Corsic Boutarlic à Dijon. Les pôles territoriaux de coopération économique. Et là, je me tourne vers Emmanuel Douda. C'est l'homme qui a responsabilité sur la notion de PTCE.
Non, rapidement, les PTCE, en fait, c'est Benoît Hamon qui a poussé ça, dans l'idée de faciliter, alors déjà de donner de la visibilité aux structures de l'économie sociale et solidaire, et puis de leur permettre de se, en tout cas, de soutenir leur mise en relation pour qu'elles puissent coopérer sur les territoires. Alors, il y avait 5 ministères derrière, j'ai plus tous les ministères en tête, mais notamment la politique de la ville, l'économie, puis un certain nombre d'autres. L'idée d'un PTCE, c'est qu'il est forcément territorial, qui rassemble à la fois des acteurs du monde marchand, du monde de la société civile, enfin les associations, du laboratoire de recherche et de la collectivité. Donc, c'est un peu une condition qui a été posée. Après, le PTCE, il peut être soit thématique, soit territorial, sans être thématique. Aujourd'hui, en région centre, il n'y en a toujours qu'un, c'est Copaxis qui est sur l'Indre-et-Loire, qui s'était donné pour mission de travailler sur la question de l'innovation sociale par le numérique, sur le prétexte que ça faisait un certain nombre d'années, de décennies, même on va dire qu'un certain nombre d'acteurs que nous étions, donc là je prends ma casquette Labo Média, où on s'apercevait que finalement le numérique était un peu en peine en termes d'usage sur le territoire. Pour dire les choses, les études qu'on avait sorties, c'est qu'on était avant-dernier en France, je crois qu'il y avait la Guadeloupe et la Corse après nous, et qu'on s'apercevait que finalement les collectivités ne soutenaient pas trop l'effort de guerre et que peut-être il fallait qu'on se prenne en main. Et donc on a travaillé en fait, quand on est arrivé sur l'Indre-et-Loire, comment on allait pouvoir pousser ce sujet-là. Et forcément, à partir du moment où c'est une ambition politique sur le territoire, ça supposait de s'interroger sur un ensemble, sur la chaîne. Et du coup, on a modélisé un fonctionnement de coopération d'acteurs qui s'est trouvé rencontrer à un moment l'appel à projet PTCE, avec l'idée de dire que si on veut qu'il y ait plus de pratiques d'innovation sociale soutenues par le numérique, c'est-à-dire que le numérique est un moyen et pas en soi, mais plutôt pour la fin des ordinateurs. Mais du coup, l'idée, c'était de dire, un, il faut monter en compétence les acteurs, donc les vrais gens sur le territoire, les professionnels, les différents domaines, etc. Donc il y a dans le PTCE une ambition sur la transmission, clairement, sur des formes pédagogiques, éducation populaire, etc. Et puis de créer les conditions pour faire émerger et soutenir des projets qui allaient émerger, plutôt en mode... Alors, de facto, on a été propulsé sur la politique de la ville, ce qui nous va plutôt bien, mais c'est vrai que ça, ça fait partie des écueils. On aurait bien aimé jouer aussi avec d'autres environnements, le monde économique aussi, en se disant que, voilà, par exemple, je pense à MAM, qui est un petit peu ce lieu totem tel qu'il est représenté sur... Alors, on aurait bien aimé, effectivement, créer de la porosité entre les quartiers et puis les centres-villes. Bon, ça a été un petit peu un échec, mais en tous les cas, l'idée, c'était de dire que pour que tout ça soit possible, cette ambition soit possible, il fallait s'adosser à des infrastructures, et on a accompagné la création d'un certain nombre d'infrastructures, lieux de formation d'une part, Fab Lab, Living Lab, etc. Voilà, des infrastructures pilotées collectivement par un certain nombre d'acteurs. Alors là, on rejoint labos, entreprises, collectivités, etc. Et d'avoir une gouvernance suffisamment agile pour que tout ça coopère ensemble. Voilà, donc le PTCE, voilà, c'est ça.
Parce que dans la définition de la loi, enfin la loi relative à l'ESS du 31 juillet 2014, article 9, donc, précise que c'est sur un même territoire des entreprises de l'économie sociale et solidaire s'associer à des entreprises en lien avec des collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de formation ou toute autre personne physique ou morale pour mettre en œuvre une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération, partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants et porteurs d'un développement local durable.
Tout à fait là-dedans.
Et dans les structures qui étaient par rapport au PTCE, c'était une mutualisation de moyens humains, c'était quoi l'application?
Alors, dans un premier temps, je ne le dirais pas comme ça, c'était la mutualisation d'énergie au service du lobbying. Enfin, clairement, l'idée, c'était de dire comment on fait exister un peu l'innovation sociale et comment on raconte qu'à un moment, avec l'analyse critique qu'on peut avoir des usages du numérique, on peut outiller des gens pour qu'émergent des projets, considérant qu'il y a un déficit sur le territoire régional d'outils, de formation, de tout ce qu'on veut, pour faciliter tout ça. Et donc la première entrée, c'était plutôt du lobbying, quoi. C'est-à-dire on se met tous ensemble et on aura voix au chapitre, parce que tout seul, isolément, on n'est pas entendu, quoi. Et effectivement, c'est ce qui a fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à faire inscrire dans des politiques régionales un certain nombre de choses. Voilà, on s'est loupé sur la métropole, mais ailleurs, on a marqué des points, quoi.
Tu parlais d'avoir une capacité d'ingénierie de projet par rapport à ça,
Oui, parce que là, pour le coup, l'ambition, c'était de se dire, alors je caricature, hein, parce que ça pourrait être une discussion assez longue, mais effectivement, il y a des gens, comme partout et comme à l'école, qui n'ont pas besoin. L'école est faite pour, entre autres, les gens qui n'ont pas besoin. Mais là, c'est un peu ça, c'est-à-dire French Tech, tout ce qu'on voit dans French Tech, finalement, c'est des jeunes issus d'écoles de commerce. Enfin, pas que, mais quand même, voilà. Et à côté de ça, on a tout un tas de jeunes qui sont dans les quartiers politiques de la ville ou ailleurs, qui voilà, sont ce qu'on appelle les NEET, c'est-à-dire sans emploi, sans formation, et qui se cherchent et qui pour autant peuvent avoir des compétences ou et des envies. Et l'idée, c'était plutôt de faire l'ingénierie qui allait permettre de construire des parcours pour prendre ceux qui en auraient envie, ou pas ceux qu'on aura envie, mais créer des espaces pour qu'eux, éventuellement, ils découvrent, peut-être pour en avoir envie un jour, et puis de les emmener jusqu'à éventuellement des sites de formation comme ce que fait le CEFIM. Donc ça veut dire qu'on a créé des formes d'animation dans l'espace public. Là, pour le coup, c'était l'expérimentation du Sanicart. On a modélisé le quartier du Sanitas en 3D et on l'a implémenté dans Toonscar, qui est un logiciel libre de Mario Kart, où on a vidéo projeté les gamins qui venaient jouer dans leur quartier à Mario Kart, dans leur quartier qu'ils avaient modélisé. Et c'était plutôt l'idée de les attirer vers un dispositif avec des élus autour, etc., pour pouvoir après leur proposer d'autres choses. Après, du coup, il y avait une seconde étape qui était la découverte des métiers du numérique, où on les emmenait au Sanitas, dans la pépinière, ou dans les entreprises, ou au Fab Lab, etc., pour leur faire découvrir un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale, etc. Et puis, petit à petit, voilà, les emmener jusqu'à, entre autres, le CEFIM, pas seulement, qui est un organisme de formation, et pour que ces gamins-là, s'ils ont envie, voilà. Mais il y a eu d'autres expérimentations, je pense aux brigades numériques, il y a d'autres choses. Donc là, tout ça nécessite une vraie compétence, quoi. Discuter avec les collectivités, les rassembler, pondre du projet, avoir une ingénierie pédagogique, faire discuter des techos, et puis des pédagogues, des éducs, etc. Enfin, là, il y a un petit peu de lourd. Et seul le rassemblement de toutes ces structures nous a permis d'avancer là-dessus.
D'accord. On parlera cet après-midi de comment ça se met en place, un PTCE, par rapport aux structures concernées. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose.
Ben non, mais c'est peut-être un peu pour cet après-midi. Non, je voulais rebondir sur la définition que tu disais, qui est dans la loi ESN. Parce que le PTCE, souvent, c'est un peu un ovni, on ne sait pas bien mais dans quel cadre. Donc vous affinerez cet après-midi, dire que c'était une démarche de coopération avec tous les acteurs que tu as pu citer. Effectivement, après, prend ou non d'ailleurs une forme juridique, et si la forme juridique, souvent c'est une association ou une coopérative, une SIC, une SCOP, enfin plutôt une SIC. Et puis j'en profite quand même pour dire que c'est quelque chose qu'on a importé au niveau de la CRES, beaucoup au niveau du conseil régional, cette notion de PTCE, puisque jusqu'alors c'était, comme tu l'as dit, un appel à projet quand Hamon était ministre, et l'appel à projet faisait qu'il y avait des gagnants et des perdants. Donc on a retenu la labellisation pour être PTCE, mais on peut être PTCE même si on a été perdant à l'appel à feu, les appels à projet. Moi tout ça je me perds. Les appels à projets qui n'existent plus, hein, qui existaient de l'État, en région, on a des PTCE qui n'ont pas été lauréats, mais qui néanmoins en sont, notamment dans le domaine de la santé. Donc c'est bien ça que je voulais rappeler en disant félicitations d'avoir remporté l'appel à projet, mais on peut être PTCE, même si on n'a pas été lauréat. Et puis ça va être quelque chose dont on va pouvoir se réemparer et s'approprier en région, puisque sans révéler les scoops de jeudi prochain, il risque d'y avoir des appels à projets PTCE régionaux. Ha. Merci pour la réaction.
Donc jeudi prochain, les 10 scoops.
Enfin après-demain, quoi.
Ah, jeudi d'après-demain.
Ouais.
Parfait.
Ça va, ça ne sera pas trop long pour attendre.
Ce suspense est insoutenable.
J'espère bien.